Collège public CADES, bonjour.
La leçon d'aujourd'hui, connaître Dieu.
Alors, un petit récapitulatif de la leçon d'hier. Juste le grand titre. C'était sur Colossiens 2, 8, où Paul met en garde, et le Saint-Esprit nous met en garde, contre les philosophies, contre les traditions des hommes, les pensées humaines, sur tout ce qui s'appuie sur le monde plutôt que de s'appuyer sur Christ. Ça, c'était la première leçon. Et nous avons vu dans cette leçon qu'il y a beaucoup, beaucoup de philosophies qui existent. Et malheureusement, nous-mêmes, bien souvent, on adhère, ou en tout cas, on a adhéré à des philosophies du monde qui ne sont pas en réalité basées sur ce que Dieu lui-même a établi. C'est exactement ce que dit ce verset. On va le relire dans Colossiens 2, 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Il y a quand même deux fois, il y a le mot « prenez garde » qui veut dire qu'il y a un combat et une vaine tromperie, qu'il y a de la séduction, il y a quelque chose pour tromper. « Et ne fasse de vous sa proie. » Donc là aussi, il vaut mieux pas être la proie de quelqu'un. « S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc le message là, c'est de dire « appuyez-vous sur Christ ». Attention, parce que vous risquez de vous appuyer sur des philosophies. Et on avait, je pense, assez détaillé cette chose-là. La deuxième leçon parlait de l'insatisfaction. Et on a vu en étudiant le récit de la tentation, au moment de la Genèse, que le moyen que le diable a utilisé pour faire chuter des gens parfaits dans un monde parfait, c'était l'insatisfaction. Et qu'à combien plus forte raison pour nous qui habitons dans un monde déchu, c'est facile de tomber dans cette philosophie de l'insatisfaction et du coup de tomber dans les pièges du diable. Mais on va continuer, on va prendre la suite et on continue dans Genèse au chapitre 3 et au verset 1. Donc cette leçon, ce sera connaître Dieu. Et nous allons voir dans Genèse 3:1 également, de quelle manière est-ce que le diable a attaqué Adam et Ève? Pourquoi est-ce que c'est important de passer du temps sur cet épisode de la Genèse? Parce que vous savez que lorsque le péché est entré dans le monde, eh bien, tous les humains ont été infectés par ce péché. Et en Adam, nous héritons malheureusement d'une nature de péché. Heureusement, en Christ, nous héritons d'une nature sainte et juste. Heureusement. Il n'empêche que le diable ayant attaqué et montré ses meilleures armes à ce moment-là, eh bien, il ne va pas se priver pour utiliser ces mêmes armes aujourd'hui même pour essayer de nous faire chuter aussi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Donc vous vous rappelez que Satan a attaqué dans les pensées. C'est au moment où le diable a commencé à faire penser Ève dans une mauvaise direction, qu'elle a commencé effectivement à rentrer dans le piège de la chute. On a vu qu'il est dit par la suite, elle vit que l'arbre était beau. C'est-à-dire qu'en fait, elle vivait là depuis des années, elle n'avait finalement jamais remarqué qu'il y avait cette attirance pour cet arbre-là, parce que le péché, parce que cette convoitise n'était pas encore venue, ça lui était même pas venu en tête. Et on avait vu également qu'on ne peut pécher que dans des domaines où on a déjà réfléchit à la possibilité de pécher. C'est important de le savoir. C'est d'autant plus important qu'effectivement, il nous est dit, par exemple dans Éphésiens, de veiller à nos pensées, à ce que tout ce qu'il soit dans nos pensées soit pur, juste, saint, vrai, etc. etc. C'est pas pour rien. On se nourrit de bonnes choses, on se nourrit pas de mauvaises choses. C'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel aussi. Si on essaie de changer nos actions sans vouloir changer notre manière de penser, là aussi c'est peine perdue. C'est le propre même de la religion, d'essayer de vouloir changer quelque chose sans vouloir remettre en question notre manière de penser, et ça mène à la catastrophe à chaque fois. Ça fait des gens qui sont méchants, ça fait des gens qui ne tolèrent pas les autres, qui se sentent au-dessus, etc., et qui ne veulent pas voir la vérité en face. C'est d'ailleurs ces gens religieux que Jésus a réprimandés sévèrement. Ceux qui étaient prêts à changer, il leur a simplement dit la vérité. Les autres, il a fallu la dire plus fort, mais ils n'ont pas forcément accepté. Donc, le point important à savoir, c'est que le péché commence dans nos pensées, dans nos émotions. Le péché est issu au préalable et en premier lieu dans l'âme. Et la première attaque de Satan, c'était contre la parole. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est-à-dire, la parole de Dieu est-elle réellement celle que tu crois ? Rappelez-vous, dans les quatre premières leçons qu'on avait vues, il y a un enjeu, non pas sur nos vies en tant que telles, mais sur la parole. Et c'est ça que le diable attaque dans nos vies. S'il y a des relations qui se passent mal avec des membres de notre famille à cause de notre engagement pour le Seigneur, eh bien, bien souvent, ce n'est pas quelque chose de personnel contre nous, c'est quelque chose, en fait, spirituel qui est contre la parole. C'est le diable lui-même qui essaie d'anéantir ce qui représente la puissance la plus grande dans cet univers. On avait vu que tout est issu de la parole. Tout est issu d'une semence. Je ne m'étends pas là-dessus. En tout cas, le premier point, c'était « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Remarquez que si Ève avait simplement répondu à cette question en disant « Dieu l'a dit, c'est comme ça », fin de la conversation. Mais à partir du moment où on commence à rentrer dans ce schéma de « Ah ben oui, après tout, et peut-être que Dieu n'aurait pas forcément dit ça, et si je m'étais trompé, et si, et là c'est le début de la chute. C'est le début de la fin, ça commence là. Il y a un moment où effectivement il faut que dans nos vies aussi on prenne des choix, qu'on prenne des décisions et qu'on dise « Je n'irai pas dans ce lieu-là, dans mes pensées. Je ne laisserai pas mes pensées vagabonder dans cette direction-là. » Ça c'est concret, c'est vraiment dans tous les jours. Mais remarquez que le point stratégique aussi qu'on pourrait voir, c'est que le diable a aussi attaqué la bonté de Dieu. Alors, ça ne saute pas forcément au premier regard, mais quand il dit au verset 4, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le diable était en train, en fait, de remettre en question la bonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas vous donner le meilleur. Dieu vous retient quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque. On l'avait vu avec l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quelque chose de bon. Et Dieu ne veut pas vous le donner. Et vous allez me dire, mais moi, je crois à la bonté de Dieu. Oui, on croit tous à la bonté de Dieu. Mais est-ce qu'il nous arrive des fois de dire, Seigneur, guéris cette personne, s'il te plaît. Je vais finalement quelque part supplier et un peu de bonté, s'il te plaît, pour guérir cette personne. Ça veut dire que nous aussi, on remet en question la bonté de Dieu. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas prêt à croire que Dieu veut guérir plus que nous-mêmes, on veut la guérison de cette personne. On va des fois supplier Dieu, et si on analyse bien la manière qu'on a de supplier Dieu, en fait, on est en train de lui dire « tu n'es pas assez bon ». Moi, je n'ai rien de spécial contre les prières pour le réveil, mais ce que je n'aime pas, c'est l'esprit qui est souvent derrière, qui est de dire « il faut que moi je prie pour que Dieu fasse quelque chose, pour que enfin les gens soient sauvés. » C'est comme si finalement je me disais, d'une part le salut dépend de moi, parce que si moi j'interviens pas, c'est pas Dieu qui va intervenir. Et si Dieu intervient pas, c'est peut-être parce qu'il aime pas ces gens. Heureusement que moi je les aime. Heureusement que moi je suis prêt à jeûner pour eux. Heureusement que moi je suis prêt à passer du temps pour eux. Heureusement que moi je suis prêt à abîmer mes genoux pour eux, parce que ça va pas venir de Dieu. Il faut vraiment le supplier pour qu'il y ait un réveil. Je caricature un peu volontairement, mais attention à l'esprit qui est derrière. Il ne faut pas remettre en question la bonté de Dieu. Il est dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Je ne sais pas si nous-mêmes qui prions pour le réveil, ça nous vient à l'idée de vouloir sauver tous les hommes. On veut bien, celui-là il est sympathique. Celui-là, Seigneur, celui-là vraiment, il est bon, vraiment sauve-le. Vous avez déjà entendu ces prières-là? Et l'autre qui n'est pas bon, non? Ça vient de notre conception de la bonté de Dieu. Et c'est ce que le diable a voulu remettre en question au niveau de Ève, en disant finalement Dieu n'est pas aussi bon que ce que tu crois. Regardez, on va lire quelques versets. 1 Jean 4, 8, Actes 10, 38, 3 Jean 1, 2. Jacques 1 et on lira de 13 à 18. Jean 10, 10. Ésaïe 5, 20. Alors, 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est une équation qui est donnée là. Dieu égale amour. Amour égale Dieu. Si tu ne manifestes pas l'amour, si tu n'aimes pas, en fait, c'est que tu ne connais pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a une relation directe entre la connaissance de Dieu et la manifestation de l'amour. Tu ne peux pas dire « je connais l'amour » si tu n'as pas connu Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu connais l'amour. Donc si tu n'as pas connu l'amour, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Il y a une relation directe. Dieu est bon, Dieu est amour. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si quelqu'un fait du bien, si quelqu'un lutte contre le diable, c'est parce que Dieu est avec lui. Dieu est de notre côté. Dieu est pour notre bien-être. Dieu est pour nous libérer de toute emprise du diable envers nous. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Il faut qu'on en soit convaincu. 3 Jean 2, enfin 1, 2, il n'y a qu'un chapitre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est aussi ce qui est dans le cœur de Dieu. Que tu prospères à tous égards, ça veut dire tous égards. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine dans ta vie où je veux que tu aies une vie qui ne prospère pas, c'est-à-dire qui ne porte pas du fruit. C'est-à-dire qu'il ne soit pas épanoui, ou bien une vie qui, au contraire, est encore sous l'emprise du diable. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on est sous l'emprise du diable, on ne prospère pas? Il ne faut pas confondre la prospérité financière, la prospérité qu'on peut imaginer dans plein de domaines tels que le monde le voit. Il y a des stars qui sont prospères au niveau gloire, au niveau argent, mais qui ne sont pas prospères aux yeux de Dieu, ils ne sont pas prospères du tout. Il n'y a pas de véritable prospérité là-dedans. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est nous libérer de toute emprise du diable, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines de nos vies. Il faut qu'on en soit absolument conscient. Jacques 1. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu n'envoie pas des tests dans notre vie, une épreuve de cancer pour savoir si je vais bien garder la foi, un test d'un patron désagréable pour savoir comment je vais réagir. Il est dit que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On en revient là, on en revient à la tentation qui a eu lieu au Jardin d'Éden et à la tentation qui peut avoir lieu partout. En fait, quand il y a une tentation, c'est parce qu'il y a, à un moment donné, une convoitise. Quand il y a cette convoitise, c'est parce qu'il y a soit l'insatisfaction, soit parce qu'à un moment donné, on ne considère pas qu'on va trouver en Dieu, ou dans la bonté de Dieu, ou dans l'amour de Dieu, de quoi nous satisfaire. Finalement, la situation dans laquelle je suis, Dieu ne peut pas arranger grand-chose, donc il faut que je trouve un autre moyen. Et je vais avoir une convoitise pour chercher une autre femme, pour etc., pour plein de diverses raisons malsaines. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On retrouve là aussi cette notion de graine qui est semée. Hein, il y a exactement une conception, une graine qui est semée, qui mature, et qui, une fois qu'elle naît, ben là, ce n'est pas un enfant qui est beau, c'est la mort qui sort. C'est la mort qui sort. Le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est bon et il n'y a pas en lui ni de changement ni de variation là-dedans. Il est bon aujourd'hui, il était bon hier et il sera bon demain et pour toujours. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Non seulement il est bon envers nous, mais en plus il a des bons plans envers nous. Il a dit « Je vous ai fait venir sur cette terre ». Je ne sais pas si on le réalise, si aucun de nous le réalise, mais même si on peut dire « Je suis venu sur cette terre et c'est la cata », Je suis pas tombé dans la bonne famille, je suis pas tombé avec le corps qu'il fallait, je suis pas tombé dans la bonne époque, dans le bon pays, etc., etc. Vous savez que c'est mieux que d'être né en tant qu'un ange, par exemple ? Parce qu'en fait, les anges sont au service de ceux qui héritent du salut. Et nous avons, quand bien même cette situation sur Terre est peut-être désagréable, un avantage indéniable d'être né en tant qu'humain. Donc il vaut mieux, quelque part, être né en tant qu'humain et se dire ben, « Oui, ok, la situation est terrible, elle est catastrophique, mais au moins je suis un humain, donc ça veut dire que Dieu m'a aimé, donc ça veut dire qu'il a des plans pour moi et qu'il a voulu que je sois les prémices de sa créature. Il a voulu me faire à l'image de son Fils Jésus. Dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul Dieu, hein, et il nous fait à l'image de lui. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de plus. » Si effectivement on s'attarde sur notre condition terrestre en ce moment, on va être malheureux et on passe complètement à côté de la plaque. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc, une doctrine très très compliquée, non, très simple à comprendre, au contraire. Si c'est bon, c'est Dieu. Si c'est mauvais, c'est le diable. Voilà. C'est simple, hein? C'est simple. Je ne veux pas me répéter, mais c'est vrai que dans tout ce que Dieu a fait, il n'y a pas de philosophie yin et yang. Il n'y a pas de mal en Dieu, il n'y a pas de bien dans le mal. Nous, c'est noir et blanc, c'est tout, point. Pas un noir avec un petit peu de blanc et un blanc avec un petit peu de noir. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est exactement ce que le diable a voulu faire. En fait, Dieu est bon. Dieu a pourvu à absolument tout pour Adam et Ève. Et il est venu en leur faisant croire que non, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'il est dit malheur. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. On ne doit pas inverser les choses. Et pour nous, il faut en être conscient. Alors, chacun de nous qui sommes là, ce que je vous dis est absolument clair et très clair. Mais il faut savoir que dans le monde chrétien, tout le monde ne pense pas forcément comme ça. Il y a une partie des chrétiens qui vont penser que Dieu est l'auteur d'absolument tout ce qui se passe sur cette terre et donc forcément du mal. Même si ça nous paraît inconcevable, sachez que ça existe, c'est le cas. Donc le diable a attaqué sur cette bonté de Dieu, sur le fait que Dieu était bon. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais Adam et Ève ne connaissaient pas très bien Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont remis en question la bonté de Dieu. On ne s'en rend pas compte, mais Adam et Ève n'avaient pas, comme nous, quelque chose sur quoi s'appuyer. Des gens qui ont eu des révélations, des gens qui ont entendu Dieu, le Saint-Esprit qui a parlé. Adam et Ève n'avaient pas tout ça. Ils ne pouvaient pas, contrairement à ce que Jésus a fait au moment de la tentation, dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». La seule chose que Ève aurait pu faire, c'était de dire « non, Dieu a dit ça et j'en reste là ». Il y avait une seule parole, mais a priori, ils ne connaissaient pas beaucoup plus. En tout cas, leurs actes le montrent, la suite le montre aussi. Genèse 4, 26. Donc vous savez que la chute a eu lieu, que Dieu, dans sa bonté, a chassé Adam et Ève, a propulsé, comme disait John, Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden pour leur éviter de subir le péché de manière éternelle en mangeant l'arbre de vie. Remarquez entre parenthèses qu'ils auraient très bien pu le manger, l'arbre de vie, avant. C'était libre. Hein. Dieu était prêt à donner ça. Dieu avait tout donné, sauf la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait, d'une part, que Adam et Ève aient un choix à faire, mais il voulait surtout, je pense, que leur connaissance du bien et du mal passe par les yeux de Dieu et pas par leurs propres yeux. Dieu dit, on va les sortir de là pour éviter qu'ils en mangent et qu'ils vivent éternellement. Ça aurait été terrible pour eux de vivre éternellement, bourrés de maladies, de problèmes, de haine, de déception. Genèse 4, donc, ils sont chassés hors du jardin d'Éden, et puis Caïn vient, puis Abel, et puis le meurtre d'Abel. Et puis, ainsi de suite, ça continue. On arrive à 4, 26. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On sait qu'en regardant un peu plus loin, 5, 9, que Seth a eu son fils Enoch lorsqu'il avait 105 ans. ce qui nous montre qu'il y avait au minimum 105 ans après le moment où ils ont été chassés du jardin, peut-être même plus. En tout cas, il y avait au moins une centaine d'années qui s'étaient passées. Et il est dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et alors, autant ça peut paraître très bien pour quelqu'un de religieux, oh, c'est bien, on invoque l'Éternel. Mais avant, il n'y avait pas besoin d'invoquer l'Éternel. Ils parlaient à l'Éternel directement. Ils se sont, en un siècle, tellement éloignés de la compréhension de Dieu que maintenant, on va invoquer Dieu. On va faire quelque chose pour espérer qu'il nous entende, pour espérer qu'il nous voit, pour espérer être accepté peut-être par Dieu. Il y a eu une forte, forte dégradation. Hébreux 1, 1 et 2. Vous savez que, effectivement, la connaissance de Adam et Ève n'était pas extraordinaire. Et regardez ce qu'il est dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Là, il y a quand même une sacrée différence. Après la chute, il a fallu qu'il y ait des prophètes, des gens qui reçoivent quelque chose de Dieu pour le dire aux autres, tellement les autres n'entendaient plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est dit, autrefois, on devait passer par des prophètes. Maintenant, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui révèle les choses. Donc on a quand même vraiment, vraiment un avantage par rapport à eux. Et autant on pourrait dire, eux, ben, ils ne savaient pas ce à quoi ça allait mener. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, à mon avis. Hein. Tu vas mourir. Il n'y avait rien qui mourait à l'époque. La problématique, effectivement, c'est comment est-ce qu'on va réussir, et c'est finalement l'objet de cette leçon, à connaître Dieu. Il faut qu'on arrive nous-mêmes à connaître Dieu, parce que c'est en connaissant Dieu qu'on saura, d'une part, réagir aux tentations, et d'autre part, vivre avec lui. J'ai mis une petit paragraphe dans les notes pour comparer la relation d'Adam et Ève avec Dieu et la relation de Paul et Jésus. Parce que les deux ont fait quelque chose de mal. Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Paul, lui, il a persécuté l'Église. Il était persuadé de servir Dieu, mais il servait un faux Dieu. Et Dieu est apparu à Adam et Ève et leur a dit, là, ça va barder. Je paraphrase. Hein. Et Jésus est aussi apparu à Paul et il lui a dit aussi, ça va barder. La différence, c'est que Paul avait les Écritures. Paul a passé du temps à revenir là-dessus, sur cette vision qu'il avait eue. Paul a été baptisé aussi du Saint-Esprit. Paul a eu la possibilité de comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Et il a pu avoir des révélations extraordinaires sur qui Dieu était, alors qu'il n'avait pas du tout cette révélation avant. Et il l'a eu, et on le voit dans ses écrits, par justement les révélations de l'Ancienne Alliance. Il y a entre 400 et 600 références dans le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Et lui, c'était ce qu'il connaissait. Donc ça ne lui a pas servi à rien finalement d'être au pied de Gamaliel. Mais il fallait que ce soit renouvelé par le Saint-Esprit, il fallait qu'il ait cette expérience avec Dieu et qu'il puisse quand même comprendre certaines choses. On avait lu l'autre fois 2 Pierre 1, les versets 16 à 20, donc on va pas les relire, je vais passer rapidement dessus. Donc vous vous rappelez, c'est ce passage où Pierre lui-même dit « Moi, j'étais à la transfiguration et j'ai vu Jésus. J'ai vu Moïse, j'ai vu Élie, et ça a été extraordinaire. » Et en fait, Pierre est en train de dire « Ce que j'ai vu, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne fait que confirmer que la prophétie est la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer. » Et il est dit un peu plus loin « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » C'est-à-dire, en fait, la prophétie, l'Écriture, ce qui a été écrit et ce qui est aujourd'hui contenu là dans notre Bible, est encore plus fiable que ce que j'ai vu avec mes yeux. Ça, c'est important. Donc, il faut aussi faire attention pour nous de ne pas être, parce qu'on peut le devenir aussi en tant que chrétien, accro aux émotions, accro aux visions, accro aux prophéties, accro à ces choses-là, parce que c'est des bonnes choses, et Pierre ne renie pas ça, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sauf que cette émotion-là, ce moment-là, ce n'est pas à chaque seconde de ta vie. Il est dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Elle est là. Il faut inscrire dans notre cœur des choses qui sont solides. Si par contre on s'appuie uniquement sur les émotions, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un peu la même chose que ce que disent les gens. Souvent les gens disent, c'est vraiment du monde, mais enfin bon, un couple, enfin, un homme et une femme se rencontrent, forcément ils couchent ensemble, tout se passe bien, puis ensuite ils se marient, et dès qu'ils se marient, ça va plus. Pourquoi? Parce que ça se passe plus bien, etc. C'est la routine, ça va plus. Bon, c'est ce que les gens disent. Hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vont vivre sur l'émotion. D'un coup, ça y est, j'ai mes hormones qui n'en peuvent plus, j'ai vu quelqu'un et je fonce et j'obéis qu'à mes émotions. Sauf qu'après, le temps passe et mes émotions diminuent. Et c'est normal. Et maintenant, il n'y a plus d'émotions. Comme je vis que sur ces émotions, mais il faut que je jette la femme et que j'en prenne une autre pour trouver encore des émotions. Mais il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, on vive les mêmes choses aussi avec les choses de Dieu, avec les manifestations, avec les choses qui sont bonnes en soi, mais qui doivent être ramenées toujours à quelque chose de solide, à la parole de Dieu. Parce que viendra toujours des moments où il y aura des décisions à prendre, des moments difficiles, des moments où on se retrouve tout seul et il n'y a pas quelqu'un pour faire de la musique et qu'on se sente bien. Et là, il faut être basé sur quelque chose de solide. Sinon, on n'est vraiment pas mature du tout. Vous savez que, à propos de la connaissance de Dieu, je suis en train de dire que nous, on connaît mieux que Adam et Ève, et c'est pas du tout pour se flatter ni quoi que ce soit, ni pour croire quelque chose de plus, mais regardez dans Exode 33, versets 12 à 23. À partir du verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. » Moïse est en train de parler avec Dieu et lui dit, j'ai besoin de te connaître. Exode 33, ça se passe après le fait d'avoir vu le buisson ardent, après le fait d'avoir sorti tout le peuple d'Égypte, après avoir ouvert la mer Rouge, après être allé sur Sinaï, avoir passé 2 fois 40 jours. Et il dit, je veux te connaître. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alors ça, il est beau ce verset, elle est belle cette déclaration de Moïse, on devrait nous aussi garder ça. Si tu ne viens pas avec moi, moi je ne bouge pas, je ne fonce pas, je veux être sûr que tu es avec moi. Alors, c'est vrai qu'on sait que le Seigneur est toujours avec nous, mais là, le sens, ça veut dire, je ne veux pas aller dans une direction que tu ne veux pas pour moi dans ma vie. Parce que là, aujourd'hui, ayant Christ en nous, quand bien même on fait un mauvais choix, le Seigneur sera à nos côtés, quand même. Et ce ne sera pas le meilleur pour nous, mais il est quand même avec nous. Ce n'était pas le cas du tout à l'époque. Hein. Verset 16, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas parce que quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc là, c'est forcément pas 33, puis ça n'existe pas. Il n'y a que 23 versets dans ce chapitre. Donc, ce que je veux dire là, c'est que Moïse demande à Dieu de le connaître. Et il lui dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, je veux te connaître dans la totalité de qui tu es. Je veux en connaître plus. Et Dieu lui dit, je te ferai voir, quoi ? Ma bonté. Ma bonté. Tu vas connaître mon nom, bien sûr, mais je te ferai voir ma bonté. C'est pour cette raison, parce que Dieu est bon, que le diable a attaqué directement là-dessus en voulant faire croire, non, Dieu n'est pas bon. Si t'arrive telle situation, finalement, c'est la faute de Dieu. Tu vois, tu t'es engagé pour Dieu, regarde le résultat. Dieu n'est pas bon, Dieu ne voulait pas que tu fasses ça. Mais Dieu est bon. On ne va pas les lire, mais je vous incite à le lire parce que c'est un peu long. Ésaïe 52 et 53. Les deux chapitres, vous pourrez les lire. C'est Ésaïe qui va prophétiser sur la venue du Messie. Et quand on lit ces chapitres, ils sont extraordinaires parce qu'ils montrent à quel point Dieu est bon. À quel point Dieu va traiter le problème du péché. À quel point il va lui-même porter sur lui notre mal. À quel point il veut nous pardonner. Ce sont des concepts qui sont extraordinaire. Nous, on peut être chrétien depuis des années et dire « Oui, ben oui, facile, c'est évident. » Mais est-ce que vous pensez que Adam et Ève, par exemple, pouvaient avoir ce concept que Dieu les aimait tellement qu'il était prêt à devenir un humain comme eux et à mourir à leur place pour eux, pour que eux n'aient pas à mourir. Ah, c'est pas un concept qui vient facilement. Il a fallu que Dieu se révèle au fur et à mesure, le temps passant, prophète après prophète, pour que finalement cette vision, cette prophétie se mette en place et puisse ensuite être réalisée. Vous savez que la racine du doute ou de l'incrédulité, c'est souvent, enfin pour pas dire toujours, le fait de croire que Dieu va refuser de nous donner quelque chose de bon. En fait, on va prier pour telle chose et puis, j'y crois pas. Ben, c'est parce que tu crois que Dieu ne veut pas te donner quelque chose de bon. Quand tu vas pousser le bouchon le plus loin possible. Non, finalement, cette chose-là, Dieu me le donnera pas. Exactement comme dans le jardin d'Éden. Ben oui, si Dieu était bon, il nous aurait permis de manger de tous les arbres. Ça, il ne veut pas me le donner. Il n'est pas bon, en fait, Dieu. S'il était bon, il avait prévu tout, tout de manière parfaite. 1 Timothée 2, versets 3 et 4, et 1 Jean 2, 2, nous montre là aussi la bonté de Dieu. 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans ce passage où il est dit de prier pour les autorités. Mais il y a des autorités, on n'a pas trop envie de prier pour elles. Il y en a même, on a envie de prier pour qu'ils démissionnent. Mais le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui est dans le cœur de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon pour tous, même pour ceux pour lesquels nous, on n'aurait pas envie qu'ils soient bons. Un peu comme Jonas, qui disait, mince à la fin, les Ninivites, j'ai pas envie que tu les sauves. Si tu m'envoies, tu es sûr que tu vas les sauver, c'est pénible. 1 Jean 2, 2. On va lire à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Vous vous rendez compte que la bonté de Dieu et l'amour de Dieu va au point d'avoir porté les péchés de même des gens qui le rejetteront et qui l'ont rejeté. C'est-à-dire que en enfer, il y aura des gens dont tous les péchés sont pardonnés. Sauf un, celui de ne pas avoir cru en Jésus, celui de refuser le salut. Mais tous leurs autres péchés ont déjà été pardonnés. C'est la bonté de Dieu. Si on avait une profonde révélation qui nous fasse connaître réellement qui est Dieu, en fait, on ne douterait pas. On doute parce qu'on va finalement ne pas croire suffisamment en l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que vraiment il veut me guérir? S'il te plaît, j'ai 4 problèmes, au moins un, s'il te plaît. Regardez ce que dit Galates au chapitre 5 et au verset 6. Bon, c'est pas que ça, c'est aussi parce qu'on a l'expérience et parce que ça nous a forgé des philosophies. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est extrêmement fort ce passage que dit Paul, parce que quand il dit la circoncision ou l'incirconcision n'a pas de valeur, eh bien je peux te dire que quand tu es juif, ça te fait une claque dans la figure, parce que ça veut dire on s'en fiche que tu sois juif. Parce que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Il y avait de quoi lapider Paul hein, quand on était juif, hein, quand il dit quelque chose comme ça. Mais il dit, seulement ce qui compte, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Il y a une relation de cause à effet entre l'amour et la foi. Entre l'amour et la foi. Quelque part, si on n'a pas la foi, c'est qu'on ne croit pas en l'amour. Puisque l'amour est le moteur de la foi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit bien souvent dans les évangiles que Jésus est ému de compassion. En général, il guérissait tous les gens qui venaient vers lui. Et c'est lorsqu'il est poussé par l'amour lui-même que lui va vers les autres. Par exemple, quand il y a ce cercueil là qui passe avec la femme, c'est poussé par la compassion qu'il y va. C'est pas eux qui ont fait appel à lui. Dieu a foi en nous de la même manière parce qu'il nous aime. Pourquoi je dis que Dieu a foi en nous? Parce que franchement, pour nous utiliser pour faire ses œuvres, il faut vraiment avoir la foi. Le Seigneur a vraiment foi en son esprit, il a foi en sa parole, il a foi en tout ce qu'il a accompli au point de pouvoir nous utiliser, nous. C'est comme si tu jouais un jeu d'échecs et puis qu'ils disent, tiens, je vais jouer un jeu d'échecs, mais je joue sans la reine, sans les tours, sans les fous, sans les chevaux. Je garde juste un pion et encore même pas, je garde que mon roi et puis j'ai les yeux fermés et puis je joue 10 parties d'échecs en même temps. Et je les gagne toutes. Dieu est fort comme ça, même plus. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est prêt à nous faire confiance. Souvent, c'est nous qui n'avons pas confiance en nous-mêmes. Souvent, on n'a pas confiance en nous-mêmes parce qu'on ne s'aime pas non plus suffisamment, parce qu'on n'a pas compris notre valeur, parce qu'on n'a pas compris à quel point Dieu nous aime et qu'il ne nous aime pas en fonction de nos capacités, de ce qu'on sait faire ou pas faire. Il nous aime parce qu'il est amour. Et à nous d'accepter qu'il nous aime parce qu'on croit qu'il est amour et parce qu'il a voulu et parce qu'il est Dieu après tout. S'il a dit « je t'aime », eh bien, je l'accepte. Est-ce que je vais être plus grand que lui et dire « non, je ne mérite pas moi cet amour ». Là, on parle de l'amour, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit vraiment dans une dynamique d'un amour qui devienne concret, qui fonctionne tous les jours, pas juste « bah tiens, on en parle là aujourd'hui, c'est bien, on est content pendant une heure ». Mais c'est quelque chose qui soit profondément ancré en nous. Regardez dans l'évangile de Jean, Jean lui-même, quand il écrit son évangile, 5 fois, il se décrit lui-même et il dit « c'est le disciple que Jésus aimait ». Et c'est merveilleux. Il faudrait que nous-mêmes, on se voit en disant « mais moi, je suis le disciple que Jésus aime ». Je vais juste rajouter Jean 21, versets 24 et 25. Et je me permets une petite liberté là-dessus, mais je pense que vous verrez que ça va dans le bon sens. Ce Jean-là qui dit 5 fois « le disciple que Jésus aimait » en parlant de lui, il explique à la fin les 2 derniers versets de son évangile. C'est ce disciple-là, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors quand on voit ça, on se dit, soit il a des problèmes de mathématiques, soit vraiment, il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, je crois autre chose. Je crois que parce que Jean savait à quel point Dieu l'aimait, ça lui a ouvert les yeux sur tout ce que Dieu a fait de bon. Et plus on va être sensible à l'amour de Dieu pour nous, plus on va voir les choses que Dieu fait. Donc on pourrait écrire beaucoup de témoignages de ce que Dieu a fait. Mais vous le savez vous-même, il suffit qu'on soit dans une situation où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas aimé, où c'est difficile. Et s'il faut se rappeler ce que Dieu a fait de bon, ben on va se gratter la tête. Je vois rien, il n'y a rien de toute façon. Il ne se passe rien dans ma vie, Dieu ne fait jamais rien. Il y a une relation de cause à effet entre la compréhension de l'amour que Dieu a pour nous et notre capacité à voir les œuvres de Dieu. Donc j'ai pris un peu de liberté là-dessus, mais je pense que c'est juste. Il faut qu'on arrive à renouveler nos pensées. Romains 8, versets 31 et 32. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Toutes choses. Dieu nous aime, Dieu est pour nous, Dieu veut nous donner. Et nous avons vu tout à l'heure que quand Dieu donne, ce sont des dons excellents. Des dons qui viennent d'en haut. Il faut qu'on ait un filtre dans notre manière de voir les choses qui soit le filtre de la parole de Dieu, qui soit le filtre de l'amour de Dieu, qui soit le filtre de la bonté de Dieu, pour appréhender tout ce qui se passe. Vous connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais cette histoire d'Élisée avec son serviteur et à qui il dit « mais nous, on n'est que deux et ils sont très nombreux ». Et le prophète lui dit « mais ouvre les yeux pour qu'ils sachent en réalité que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous ». C'est de cette manière qu'il faut qu'on arrive à voir les choses. Si effectivement on agit de manière charnelle, c'est-à-dire en fonction de juste des circonstances, on va voir que ben, nous on est là, moi et le serviteur, ou moi et le prophète, peu importe, et on se sent bien faible. Alors que si on arrive à voir les choses spirituellement, on va se rendre compte que Dieu est pour nous. Ça doit vouloir dire quelque chose quand même, Dieu est pour nous. Vous imaginez si vous aviez Barack Obama pour vous. Ça pourrait peut-être changer des choses si vous avez quelques soucis administratifs, si vous avez quelques problèmes pour trouver un emploi, quelques problèmes dans telle ou telle direction. Mais là, c'est Dieu qui est pour vous. C'est bien au-delà que même les personnes les plus influentes sur cette terre. La confiance avec Dieu, elle grandit lorsqu'il y a une bonne relation, là aussi. Il faut qu'on arrive à comprendre que la relation que Dieu veut avec nous est une bonne relation, il faut que de la même façon, nous aussi, on ait une bonne relation avec lui. 2 Pierre 1, verset 3 à 9. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est-à-dire que Dieu a tout donné, mais tu le reçois lorsque tu commences à connaître Dieu. Et vous pourrez lire tout ce passage, mais je veux aller un peu plus loin, verset 9. « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. » Dire il est myope aussi. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc il y a une relation claire entre le fait de recevoir quelque chose de Dieu et le fait d'oublier que Dieu a pardonné nos fautes. C'est-à-dire que tant qu'on va nous-mêmes mettre une condamnation sur nous à cause de quelque chose qu'on a fait et qu'on aura mis en oubli le fait que Dieu nous a pardonné de ces choses-là, eh bien on n'entrera pas comme il le faudrait dans tout ce que Dieu a prévu pour nous. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et ça doit être quelque chose qui pour nous est important, de se dire « Dieu m'a pardonné. Oui, j'ai fait des gaffes. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, peut-être que j'ai prié pour quelqu'un et je n'ai pas dit ce qu'il fallait ou je n'ai pas eu la foi. Mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'a aimé. La relation est encore là. Elle est bonne. Et je vais continuer parce qu'il m'aime. » Romains 4, verset 6. Et une fois de plus, si je reprends cet exemple de la partie d'échecs, on ne pourra pas, nous, aider Dieu à faire un choix dans cette partie d'échecs pour gagner quoi que ce soit. Déjà bien content qu'il nous utilise dedans. Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, j'ai rien eu à faire sinon croire et Dieu a accepté de faire de moi son fils. Il a accepté de me justifier, de me faire asseoir sur le trône à côté de lui. Il y a un bonheur normalement là-dedans. Hein? Et David l'a compris. David, qui était même sous l'ancienne alliance, l'a compris. Et il a dit, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Il y a une joie, il y a un bonheur, là aussi, dans la relation avec Dieu, de dire, « Mais tu n'es pas celui qui me condamne. Tu n'es pas celui qui m'écrase, tu n'es pas celui qui met le doigt sur la moindre faute que j'ai faite. Et je suis heureux de ça, et tu veux mon bonheur, tu me libères de tout ça. » C'est pour ça que Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Bon, vous lirez aussi, là je vais aller vite dans les notes, Éphésiens 3, 14 à 19, on avait prié ce passage ensemble. Et une des clés aussi pour que nos prières soient exaucées, c'est de savoir que l'on prie selon la volonté de Dieu. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça, ça fait partie de la connaissance de Dieu. 1 Jean 5, 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est déjà pas mal. « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Tout ça, c'est une question de relation avec Dieu. Si on pense que Dieu va nous bouder, combien de fois, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'était arrivé avant dans ma vie chrétienne de croire que ah ben parce que j'ai fait ça, maintenant, Dieu est fâché. Dieu va couper cette relation. Il faut que tu rétablisses une relation avec Dieu. Mais ce n'est pas vrai dans le sens Dieu vers moi. C'était vrai dans le sens moi vers Dieu, parce que moi, en faisant n'importe quoi, forcément, je lui tourne le dos. Mais croire que Dieu me tournait le dos, c'était un mensonge. Dieu est toujours là en train de vouloir nous écouter, de vouloir nous comprendre, de vouloir nous consoler, de vouloir nous faire du bien. Toujours. Éphésiens 3, à partir du verset 14, c'est cette prière qu'on avait faite ensemble. Et au verset 19, il est dit « Je prie donc pour que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la connaissance et de l'autre, il y a le fait de connaître l'amour de Christ. Quand tu comprends à quel point Dieu t'aime, ça va dépasser toute connaissance intellectuelle. Il va y avoir quelque chose de concret et de réel. De chaque jour, de se dire, de se lever le matin et de se dire, quelqu'un m'aime. Et ce n'est pas n'importe qui. Dieu m'aime. Et ça, je n'ai pas besoin de me forcer dans le sens où je n'ai pas besoin de calculer, de comprendre. Il est dit, ça dépasse toute connaissance. Ce n'est pas quelque chose, en fait, que tu peux comprendre intellectuellement. Parce que si tu le comprends dans ta tête, tu vas te dire, ben, il m'aime, mais franchement, Je sais pas trop pourquoi, je comprends pas trop. Tandis que on doit rentrer dans cette compréhension qu'il est Dieu et qu'il a décidé. Il a choisi de nous aimer. Dieu n'a que de bons plans pour chacun de nous. Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Intéressant quand même. Ça veut dire que Dieu veut que tes projets réussissent. C'est la volonté de Dieu dans notre vie. Dieu veut que tes projets réussissent, puisque si tu recommandes tes projets à l'Éternel, tes projets vont réussir. Alors qu'il est dit dans 15:26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Là, le mot pensée, c'est le mot machashaba en hébreu, désolé de ma prononciation hébreu, qui veut dire à la fois pensée, à la fois projet aussi. Donc, il est dit, les projets mauvais sont en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas que les choses se passent mal. Dieu a pour nous des bons projets. Je vous ferai grâce de Jérémie, que vous connaissez par cœur. 29:11, oui, que vous connaissez par cœur. Psaume 94:11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Et Ésaïe 55:9 nous dit... Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes projets sont élevés au-dessus de vos projets. Et bien souvent, on voit ça et on dit, ben oui, c'est vrai, moi, j'arriverai pas à comprendre ce que Dieu dit, Dieu est trop grand, etc., etc. Ce qui d'ailleurs est un petit peu en opposition avec ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, où il est dit, nous avons la pensée de Christ, mais bon, voilà. Ésaïe 55:9 donc dit, mes projets sont au-dessus de vos projets, et on a vu dans le psaume 94:11 où il est dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme ou les projets de l'homme et il sait qu'ils sont vains. » Alors ça, c'est extraordinaire. Si tu mets ensemble ces deux versets, « Les projets de l'homme sont vains » et Dieu dit « Mes projets ne sont pas vos projets. » Moi, je n'ai pas des projets qui sont vains pour vous. Moi, j'ai des projets pour vous qui sont bons, qui sont grandioses, qui sont merveilleux. Si c'est des projets qui viennent de l'homme, ça ne vaut rien. Ça va à la ruine. Moi, j'ai des choses mieux pour vous. C'est ça pour dire, mes voix sont au-dessus de vos voix. J'ai des choses plus grandes pour vous que ce que vous pouvez imaginer ou penser. Il est merveilleux, notre Dieu, quand même, non? Si notre attention est fixée sur Dieu et sur qui il est, eh bien, je crois qu'on peut se réjouir, quoi qu'il arrive. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça veut dire, dans quelque situation que je me trouve, je dois savoir, je dois expérimenter, je dois savoir que je sais que Dieu m'aime. Et c'est pas parce que on me regarde comme une brebis destinée à la boucherie que Dieu m'aime pas. C'est pas parce que j'ai des catastrophes dans ma vie que Dieu m'aime pas. Ce qui compte, c'est que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. La pire chose qui puisse arriver à la fin, c'est que je meure. Eh bien, tant mieux, comme ça, j'embrasserai l'amour de Christ à plein bras. 1 Jean 3, verset 21. Une véritable relation avec Dieu va produire de l'assurance également. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si notre cœur ne nous condamne pas, ce n'est pas écrit si Dieu ne nous condamne pas. Si notre cœur, si notre manière, nous, de voir les choses, de penser, de réfléchir, le cœur, c'est le siège des pensées profondes, de nos philosophies. Si on ne se fait pas condamner, alors on peut aller devant Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on sait qui il est, on sait qu'il nous a aimés. On sait que parce qu'il a donné son propre fils, mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous refuse? Et c'est important de vivre ça et d'avoir cette expérience permanente, parce que ce n'est pas une expérience temporaire, c'est quelque chose... Bien évidemment, c'est une marche de tous les jours et on est tous en chemin. Et aucun de nous, on arrive à la perfection là-dedans. Mais peu importe, on sait la direction en tout cas. Eh bien, on veut marcher là-dedans. Et l'important de vivre là-dedans, c'est que lorsqu'on a cette intimité avec Dieu, cette expérience avec Dieu, alors on n'est plus à la merci d'une personne qui vient avec des arguments contre Dieu. quand on a expérimenté l'amour de Dieu, on ne va plus être déstabilisé par quelqu'un qui va dire « Oui, mais en fait, c'est Dieu qui a envoyé cette maladie. » Ou « Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. » Comment tu peux rentrer dans une logique de dire « Ben oui, finalement, si Dieu vraiment était amour, il n'y aurait pas de guerre. » Tu peux rentrer là-dedans que si tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu. Mais si tu as expérimenté l'amour de Dieu, si tu sais qui est Dieu, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Ève, si elle avait connu la bonté de Dieu, si elle avait compris à quel point Dieu avait tout fait pour eux, ils étaient, entre guillemets, quasiment le centre de l'univers, en tout cas de l'univers physique. Tout était fait pour eux. Mais elle n'avait pas assimilé cette chose au point que lorsque la tentation est venue, elle est tombée dans le piège. Non, finalement, effectivement, Dieu n'est pas mon tout. Je ne suis pas entièrement satisfaite en Dieu. Jésus est notre entière satisfaction. Colossiens 2:10. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est des versets qu'on connaît par cœur, mais je veux les répéter pour que ça rentre et que ça veuille dire quelque chose. Ce mystère dont Paul parle, c'est Christ en nous. Il y a Dieu en chacun de nous. Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Dieu a des bons projets pour nous. Est-ce que je vais me laisser déstabiliser par tous les événements extérieurs? Non. Il ne faut pas en tout cas. Nous devons avoir de l'assurance. De l'assurance en l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu. 2 Chroniques au chapitre 15, verset 12. Ils prirent, et on est sous l'ancienne alliance là, hein? On est avec des gens qui ne savaient pas que Dieu les aimait au point de venir lui-même sur cette terre mourir pour eux, porter leurs péchés. Il y avait quelques idées par-ci par-là, quelques compréhensions par-ci par-là, mais il n'y avait pas cette révélation profonde. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Bon, ça plaisantait pas là quand même. Hein? Maintenant, on va chercher l'Éternel. Donc nous, on se fait pas ça entre nous, hein, d'accord? Mais on prend aussi l'engagement de chercher l'Éternel, de vouloir recevoir de son amour. Seigneur, si j'ai pas saisi à quel point tu m'aimes, et certainement je l'ai pas saisi, je veux continuer à recevoir de ton amour. Je ne veux pas qu'il y ait une seule seconde dans ma vie où je doute de ton amour, où je doute de ta bonté. Je veux marcher dans quelque chose de concret et de réel. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie au son des trompettes et des cors. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Vous savez, quand on cherche, on trouve. Tout à l'heure, on a lu un Jean qui disait « Si on prie selon sa volonté, on sait qu'il nous exauce ». C'est la volonté de Dieu qu'on grandisse dans son amour. Il va nous répondre. Et ça va venir au fur et à mesure de notre capacité à nous de rejeter nos philosophies. Plus on voudra nous-mêmes faire table rase sur nos anciennes conceptions, plus le Seigneur aura l'autorisation de notre part ou moins de blocage pour nous faire réaliser ces choses-là. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Voilà, j'en finis là-dessus. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue parce que tes plans sont merveilleux. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu as réellement prouvé ton amour. Et je ne veux plus et nous ne voulons plus passer une seule seconde de notre vie à douter de ta bonté ou de ton amour, ou de ta grâce, ou de ta volonté de faire le bien. Tu es bon, Seigneur Jésus, tu es juste, tu es amour. Et nous voulons proclamer la vérité. Père, nous voulons ensemble prendre aussi cette décision de, en commun, te chercher, Seigneur. Nous désirons grandir dans cette connaissance de ta personne. Et nous prions aussi pour que tu révèles à nos cœurs tous les barrages qu'on s'est mis année après année. Peut-être toutes les souffrances, peut-être des esprits religieux, peut-être des conceptions tordues, peut-être une mauvaise compréhension des événements qui se sont passés. Mais nous voulons dire, Seigneur, que toi, tu es vrai. Et si nos pensées vont à ton encontre, eh bien, nous voulons dire, nous sommes menteurs dans ce domaine-là. et nous voulons aligner nos pensées à ta pensée, Seigneur. Je te bénis parce que tu nous accordes du repos et nous recevons ce repos de ta part. Je te bénis parce que tu nous dis que quand nous cherchons, nous trouvons. Et nous proclamons tous ensemble, nous trouverons tôt ou tard, mais nous trouverons, Seigneur Jésus, ton amour, ta paix, ta grâce en abondance, puisqu'il est dit que tu es venu apporter la vie et la vie en abondance. Sois béni, Seigneur Jésus, sois glorifié, tu es merveilleux. Amen.